Tous les ans, au moment de l'Avent, c'est-à-dire les 4 semaines qui précèdent Noël, on nous invite à méditer sur le personnage de Jean-Baptiste. Historiquement, c'est un peu curieux, parce que quand on lit l'Évangile, Jean-Baptiste arrive après la naissance de Jésus, et pas du tout avant. Et donc, on devrait plutôt méditer sur Jean-Baptiste en janvier. Alors, pourquoi le fait-on en décembre, avant Noël ? Eh bien, parce que je crois que de tout temps, on a compris que Noël n'était pas le fait de célébrer un anniversaire historique, mais que Noël, c'était le moyen de dire que l'on voulait que Jésus puisse arriver dans notre cœur, naître dans notre cœur. Noël, si vous voulez, ça n'est pas la naissance de Jésus, je dirais plutôt que c'est la fête de son retour. Puisque Jésus, il est né il y a 2000 ans, bon, ça c'est une chose qui est faite. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'il se contente d'être né il y a 2000 ans, ou est-ce qu'aujourd'hui encore, il va renaître dans nos cœurs pour être une présence effective dans nos existences? Et donc c'est ça l'enjeu de Noël, c'est la venue du Christ dans nos vies. Et là, la tradition liturgique chrétienne a été assez juste de dire, en posant la question plutôt, comment peut-on faire en sorte que Jésus vienne dans nos vies? Comment peut-on faire en sorte que Jésus naisse dans nos existences? Comme si cela n'allait pas de soi. Autrement dit, la période de l'Avent nous fait penser que nous croyons, nous, que la date de Noël est certaine et que le 25 décembre aura bien lieu Noël, dans nos calendriers peut-être, dans nos cœurs, est-ce évident? Et comment faire donc pour que le Christ puisse venir dans nos vies? Comment pouvons-nous avoir la foi en quelque sorte? Et là aussi, la tradition chrétienne est constante de dire qu'on ne peut pas se donner la foi à soi-même et on ne peut pas tout à coup décider que l'on voudrait que Dieu soit présent dans nos vies, mais que tout cela, c'est un travail qui demande du temps et qui demande une préparation, qui demande une participation de notre être pour être capable de recevoir le Christ dans nos vies. Et ça, c'est le rôle de Jean-Baptiste, effectivement. Jean-Baptiste qui est donc celui qui précède, non pas la naissance du bébé Jésus, mais qui précède l'Évangile. C'est le portail qui nous ouvre, qui nous fait entrer dans la prédication du Christ. Et je suis convaincu qu'on ne peut rien comprendre à l'Évangile si on n'est pas d'abord passé par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est un personnage qui, à mon goût, n'est pas assez connu dans nos églises. On lui donne même trop peu d'importance dans notre piété. Je suis même étonné d'ailleurs que dans la Bible, Noël, il n'y a que 2 évangiles qui en parlent, alors que Jean-Baptiste, les 4 en parlent. Donc finalement, je dirais même que pour la Bible, Jean-Baptiste est 2 fois plus important que Noël. Et qu'en faisons-nous ? Eh bien, on nous dit effectivement que Jean-Baptiste prêchait et qu'il disait « Préparez les chemins du Seigneur ». Et ça, c'est quelque chose d'important parce que cela balaye d'un coup 2 tentations que nous avons quant à comprendre ce que peut être la foi pour nous. Certains d'abord disent ou pensent que la foi, c'est un don de Dieu. Et donc certains disent, voilà, j'ai la foi, je ne l'ai plus, ou si Dieu veut, me la donnera, ou je ne sais quoi. Eh bien, nous voyons déjà que la foi n'est pas un simple don de Dieu, et que nous n'avons pas à attendre passivement que Dieu nous donne la foi, mais il y a une participation personnelle de notre part pour faire en sorte que cette foi puisse arriver. Et donc, on n'est pas dans l'attente passive, si vous voulez. À l'inverse, d'autres disent, la foi, ce n'est pas un don de Dieu, c'est la réponse de l'homme à la grâce. Donc ça, c'est aussi une vision, peut-être, je dirais, la première réponse, c'est celle qui est donnée en général par ceux qui pensent ne pas croire en Dieu et qui disent, ben moi, j'ai pas la foi, Dieu me l'a pas donné, je vais attendre que ça vienne tout seul. Et cette deuxième réponse, c'est plutôt celle des chrétiens engagés et qui disent, Dieu offre la grâce et la foi, c'est la réponse, c'est le oui à la grâce. Eh bien, je ne suis pas sûr que ce soit vrai non plus. Parce que cette conception un peu volontariste de la foi, en tout cas, ne colle absolument pas avec l'histoire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ne dit pas « Vous avez reçu la grâce, acceptez-la, nom de Dieu !» Mais il dit préparer les chemins du Seigneur par tout un travail compliqué que nous allons voir. Et donc je ne pense pas que la foi soit uniquement une décision libre et volontaire de notre être, mais la foi c'est encore autre chose. La foi c'est d'accueillir dans son être une dimension qui est extérieure à nous. La foi c'est de mettre dans notre vie quelque chose qui ne nous appartient pas. La foi c'est mettre une dimension de transcendance dans notre existence. Et ça, ça n'est pas simple. Et ça ne se fait ni par la simple passivité, ni par une action volontaire. On ne peut pas le faire de force, on ne peut qu'essayer de préparer les chemins du Seigneur. Voilà. Et donc le Seigneur, effectivement, il viendra comme il veut, comme il peut, mais à nous, eh bien, de préparer, c'est-à-dire d'enlever les obstacles qu'il y a entre Dieu et nous. Et c'est bien ce que dit Jean-Baptiste en citant Ésaïe. Que toute colline soit abaissée, que toute vallée soit comblée, rendez droit ses sentiers. Alors c'est ça, ces collines, c'est-à-dire il y a entre vous et Dieu, ou entre vous et les autres, hein, parce que dans l'Évangile, aimer Dieu et aimer son prochain, c'est la même chose. Eh bien, il y a entre vous et les autres des montagnes d'égoïsme qui font que vous ne voyez pas l'autre, que vous ne pouvez pas apercevoir Dieu. Eh bien, pour une fois, enlevez, arasez ces montagnes d'égoïsme, ces montagnes de bêtises, d'indifférence et d'orgueil. Et de même, dit Ésaïe et Jean-Baptiste, que toutes les vallées soient comblées. Et là aussi, il y a dans nos vies combien de trous, de manques, de gouffres, d'indifférence, de trous, d'échecs divers de ce que nous n'avons pas fait, de ce que nous avons manqué et raté. Eh bien, il dit, bouchez ces trous d'indifférence, rasez ces montagnes d'indifférence, d'orgueil et de bêtises, c'est-à-dire, en fait, déblayez un peu votre vie et mettez de l'ordre là-dedans pour enlever tout ce qui ne vaut rien et tout ce qui cache les autres. Et également, mettez de l'ordre pour ajouter dans votre vie ce qui manque. Et puis après, bah, vous verrez bien comment ça se fera. Ça, c'est une idée que l'on trouve un peu partout. Et Jean continue par une autre injonction tout aussi moralisante. Rendez droit ses sentiers. Rendez droit ses sentiers. Et là, je sens poindre une exigence de rigueur morale. Jean-Baptiste, vous le savez, n'était pas très drôle. Il était très sobre, il mangeait des sauterelles, vivait dans le désert. Enfin, ce n'était pas un joyeux luron. Et donc, Jean-Baptiste, effectivement, prêchait une morale assez austère. Je dirais que Jean-Baptiste est un peu, pour moi, la préfiguration de Calvin, si vous voulez. Et donc, rendez droit ces sentiers. Un peu de rigueur, ça ne fera peut-être pas de mal à votre vie non plus. Mettez un peu d'ordre et commencez déjà dans votre vie par redresser ce qui est tordu. Après, on verra. Après, on verra. Et l'idée est bonne, mais je ne sais pas si ce rigorisme moral est bon, on va le voir. Mais en tout cas, qu'il faille préparer les chemins du Seigneur, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et en effet, on le trouve dans différents psaumes, comme dans le psaume 24, où il dit « Porte, élevez vos frontons, élevez-vous, porte de gloire, élevez-vous, qu'il entre le roi de gloire, ouvrez-vous, portes éternelles. » Il faut en effet apprendre à s'ouvrir, c'est-à-dire ouvrir ses portes et attendre activement pour pouvoir recevoir. Cela dit, Jean a une méthode particulière et le texte de la Bible est très précis. Il nous explique comment nous pouvons préparer les chemins du Seigneur. Il faisait venir les gens dans le désert qui est le lieu de la parole entre nous. Hein. Le désert, ce n'est pas là où il n'y a personne, ce n'est pas une voix crie dans le désert, personne n'entend. La preuve, c'est qu'on nous dit après qu'il y a des foules entières qui venaient. Donc l'idée, Jean prêchait dans le désert, c'est-à-dire personne l'écoute, ce n'est pas ça du tout. Mais le désert, c'est le lieu où Dieu se révèle. Dans toute la Bible, le désert, c'est le lieu de la parole. Donc il invitait déjà les gens à venir dans le lieu de la parole. Voilà, on écoute. C'est la première chose à faire, c'est ce que vous faites, et vous avez déjà fait la première partie du programme de Jean. C'est pas mal. Ensuite, on nous dit qu'il invitait les gens à confesser leurs péchés. Alors le mot « confesser » est un mot compliqué, parce qu'on parle de confession des péchés, de confession de foi, confesser Jésus-Christ. Bon, en fait, confesser, en français courant, ça veut dire reconnaître ouvertement. Et donc, confesser son péché, ça veut dire je reconnais publiquement ma faute. Et confesser sa foi, ça veut dire je reconnais publiquement ma foi. Et donc, je confesse ma foi parce que je dis ma foi, et je confesse mon péché quand je dis mon péché. Donc, confesser, ça veut dire son péché, ça ne veut pas dire annoncer le pardon. C'est tout à fait autre chose. Donc, il invitait d'abord aux gens, les gens à dire, à reconnaître leur faute, et ceux qui reconnaissaient leur faute, il les plongeait dans l'eau, dans ce qu'on appelle un baptême de repentance. Et là encore, les contresens sont nombreux, parce que la Bible nous dit que Jean baptisait dans l'eau. Donc nous, avec nos repères habituels, on imagine les baptêmes qu'on fait des petits bébés ici. Ça n'a rien à voir, absolument rien, rien de rien de rien. Parce que c'était un baptême d'adulte et pas d'enfant, ça n'était pas un baptême chrétien, puisque c'était avant Jésus, que ce n'était pas en jetant un peu d'eau à la tête des gens, mais en les plongeant dans l'eau. Et d'autre part, le baptême que nous faisons pour les enfants, c'est simplement un signe de grâce. On dit la grâce est offerte à l'enfant. Là, c'était un baptême signifiant le pardon. C'est tout à fait autre chose. Et quand on baptise un bébé, on ne lui dit pas qu'il est pardonné, le pauvre lapin, il a 3 mois, il ne faut quand même pas exagérer. Et donc, par conséquent, c'est tout à fait autre chose. Et d'autre part, le baptême que nous faisons des bébés, on le fait une fois dans la vie, il est probable là que ce signe de pardon que donnait Jean-Baptiste, pouvait être répété, et les gens devaient venir, je ne sais pas moi, peut-être toutes les semaines ou tous les jours, pour les plus mordus, pour se faire réentendre l'annonce du pardon de leurs péchés, comme les bons catholiques le font en allant au sacrement de pénitence. Et puis ce mot baptême est simplement une erreur, parce que baptiser, c'est pas un mot français, c'est un mot grec, baptisein, qui veut dire plonger quelque chose dans un liquide. Et on a dans les textes anciens, un texte qui date d'avant le Christ, en grec ancien, qui est la recette des cornichons. Et l'auteur à ce moment-là explique que pour faire des bons cornichons, il faut les plonger dans du vinaigre. Et bien sûr, le mot utilisé, c'est baptisein. Et donc, il faut baptiser les cornichons dans le vinaigre. Donc vous voyez que baptiser ne veut pas forcément dire un acte liturgique. Baptiser, ça veut dire plonger. Et donc Jean, simplement, plongeait les individus dans l'eau, et il les faisait ressortir, c'était comme un signe de purification. Donc tu es noir, sale de ton péché, de ta faute, de ta culpabilité, je te plonge dans l'eau et tu ressors comme tout propre, comme lavé de tes péchés. C'est un rite de purification, comme il y en a toujours eu chez les Juifs et comme il y en a encore. Cela étant dit, regardons un peu ce qu'il en est. Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit que la façon de préparer les chemins du Seigneur, de pouvoir accueillir le Christ ou Dieu dans sa vie, c'est de reconnaître son péché et d'accepter le pardon. C'est-à-dire de se reconnaître à la fois pécheur et pardonné. Et ça, c'est absolument essentiel. C'est tellement essentiel que c'est la base de toute liturgie chrétienne. La liturgie chrétienne, suivant où l'on va, peut évoluer. Le seul point qui n'a jamais varié en 2000 ans et qui est présent dans toutes les liturgies chrétiennes, de toutes les confessions, de tous les pays, de tous les temps, de tous les lieux, c'est cette démarche dite pénitentielle, c'est-à-dire la confession des péchés et l'annonce du pardon. Dans toutes les liturgies, il y a ça. Et donc, en effet, avant même de pouvoir écouter une parole, eh bien, on se reconnaît pécheur et on se reconnaît pardonné. On se reconnaît pécheur et pardonné. Et c'est ça le travail de préparation. Sans arrêt, on doit se rappeler qu'on est pécheur et qu'on est pardonné. Et ça nous permet de, effectivement, d'enlever les montagnes de faute et de culpabilité qui nous coupent de Dieu et de boucher par le pardon, je dirais, ce trou, ce manque, cette angoisse de se dire que l'on n'a pas été à la hauteur. Et c'est ça qui peut nous permettre de nous aider à accéder, que Dieu puisse accéder à nous. Ce savoir pécheur, ce n'est pas, je crois, faire étalage de ses fautes particulières. Ce savoir pécheur, c'est savoir que l'on n'est pas parfait. Voilà. Parce que le péché, c'est l'imperfection fondamentale. Et c'est savoir que l'on n'est pas parfait, que l'on a besoin de Dieu, que l'on a besoin des autres et qu'on a besoin de progresser. Celui qui ne se sait pas pécheur ne peut pas avancer. Parce que s'il se dit à ce moment-là, moi je suis parfait, j'ai tout ce qu'il faut, je n'ai besoin de rien ni de personne, bon, à ce moment-là, c'est pas un chemin qui s'ouvre devant lui, c'est un mur qu'il ferme, c'est une porte fermée à tout. Eh bien c'est ça, se reconnaître pécheur, c'est pas se culpabiliser, c'est se dire oui, j'ai besoin de Dieu, oui j'ai besoin de vous, mes frères, mes sœurs, j'ai besoin de l'Église, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'avancer et de progresser. Parce que je ne pense pas être en moi-même la merveille du monde. Et c'est vrai que le péché, c'est finalement tout ce qui, c'est toute imperfection qui est en nous aussi. Tout ce qui est misère, pauvreté, égoïsme, éloignement de Dieu. C'est vrai aussi que on ne peut, bénéficier de l'aide de Dieu que si on reconnaît qu'on en a besoin. Ça s'est dit à bien des endroits. Comme le malade qui va voir le médecin, s'il arrive chez le médecin en disant « Vous savez, je vais très bien, je n'ai pas besoin de vous », c'est même pas la peine d'aller le voir. Mais donc, savoir déjà de quoi l'on souffre, c'est déjà pouvoir en guérir. Et on a ça dans l'évangile de Jean, au moment de la guérison de l'aveugle-né, où Jésus dit aux pharisiens, il dit « Votre péché, ce n'est pas tellement que vous soyez imparfait ». Parce qu'à la limite, si vous étiez aveugle et que vous le sachiez, ce ne serait pas très grave. Ce qui est grave, c'est que vous êtes aveugle et vous prétendez voir. Ça, c'est embêtant. C'est-à-dire que vous n'acceptez pas votre propre imperfection. Et c'est là où il y a un véritable obstacle à quoi que ce soit qui puisse vous aider. Et dans l'Apocalypse aussi, au chapitre 3, quand l'Esprit dit à Jean, « Parce que tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu, moi, je te conseille de venir acheter chez moi un collyre pour les yeux et que tu te rendes compte à quel point tu es pauvre, misérable, aveugle et nu pour que je te guérisse. » Et donc, oui, certainement, l'homme doit cesser de se prendre pour Dieu ou pour une merveille du monde, reconnaître qu'il n'est pas grand-chose en lui-même et qu'il a infiniment besoin de Dieu. Et ensuite, eh bien, il annonce le pardon. Parce que toute la vie chrétienne, elle est là-dedans. C'est de se savoir à la fois pécheur et en même temps de se savoir pardonner. Parce que si je suis pécheur, je sais que j'ai besoin de Dieu, mais si je reste dans le péché, je suis complexé, incapable de rien, je me sens coupable, et ça c'est très mauvais. Et donc il faut se savoir à la fois pécheur et pardonner. Et se savoir pardonner, c'est être dans la liberté, mais ne pas oublier qu'on est quand même pécheur. Et il faut arriver à garder les deux ensemble, et c'est à partir du moment où on est juste bien équilibré, dans une juste conscience de sa faiblesse, mais sans culpabilité, que l'on peut écouter l'Évangile et un Christ qui va nous dire « Voilà ce que tu peux faire pour moi, pour le monde, pour les autres, et voilà ce que tu peux faire. » Et donc l'Évangile, c'est ce qui va nous donner un programme. Mais pour préparer ce programme, il faut d'abord que nous soyons en bon état pour le faire. Et ensuite, Jean-Baptiste, ce qu'il disait à ceux qui venaient le voir, c'est repentez-vous. Repentez-vous, traduit parfois par convertissez-vous, cette injonction de Jean m'intéresse. Parce qu'en effet, il demande de se convertir. Alors, le mot n'est pas très bon parce que aujourd'hui, convertir, ça veut dire changer de religion, le juif qui devient chrétien, le chrétien qui devient musulman, le musulman qui devient je ne sais quoi. Mais en fait, dans la Bible, convertir, ça veut dire tourner. Comme à ski, on fait une conversion quand on tourne, on change de direction. Et c'est bien le mot, effectivement, qui est en grec là-dedans, métanoïté, ce qui veut dire changer d'état d'esprit. Il y a d'ailleurs certaines traductions qui, au lieu de mettre le célèbre « repentez-vous » ou « convertissez-vous », mettent « changer d'état d'esprit ». Et c'est bien cela, changer d'état d'esprit, changer de sentiment, c'est-à-dire que si on veut accueillir Dieu, il faut changer quelque chose dans sa vie. Il faut se tourner autrement et voir les choses autrement. Et ce métanoïté, convertissez-vous, on peut l'entendre de différentes manières. Bien sûr, j'ai fait, comme tout le monde, une recherche pour savoir à quoi ça peut correspondre dans l'Ancien Testament. Et on se rend compte que cette conversion correspond à un mot hébreu qui est en hébreu se dit chouv, qui veut dire faire demi-tour, tourner. Et donc tourner, c'est ça, c'est reconnaître qu'on s'est parfois éloigné et que c'est dommage et que l'on veut revenir à Dieu ou là où l'on était. Comme l'enfant prodigue qui s'est éloigné du père et qui reconnaît qu'il s'est égaré. Et il reconnaît que la situation dans laquelle il s'est mis ne peut le mener qu'à la mort, à la pauvreté, qu'il peut devenir simplement comme un cochon. Et donc il décide de changer de direction, il fait demi-tour et il revient vers le Père. Et là, l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un Dieu toujours prêt à nous recevoir comme le fils prodigue, sans rancune, sans culpabilisation, sans rien, et qui nous annonce le pardon. Ensuite, effectivement, donc, il annonce le pardon, ce pardon qui enlève tout ce qui fait obstacle de notre relation à Dieu, et ça, c'est Dieu qui nous l'offre, et on peut se savoir ainsi pécheur et pardonné. Mais j'ai fait, en fait, une découverte, parce que ça, c'est ce qu'on dit dans tous les bons livres, que métanoïté, ça vient de chouv, qui veut dire faire demi-tour. Mais j'ai découvert, il y a peu, grâce à des ouvrages savants, informatique, que en fait ce métanoïté grec dans l'Ancien Testament, contrairement à ce qu'on m'a appris à la faculté de théologie, ne traduit qu'une seule fois dans toute la Bible le mot chouv, qui veut dire faire demi-tour. Dans tous les autres cas, ça traduit un autre mot, naham, qui veut dire changer son état d'âme et qui peut dire dans bien des cas changer de sentiment et qui veut dire aussi consoler. Et tiens, c'est très curieux, parce que ce mot, verbe naham, eh bien, c'est celui qui est en tête de Ésaïe 40, que je vous ai lu tout à l'heure, qui est justement cité par Jean-Baptiste, quand il dit « Préparez les chemins du Seigneur, que toute vallée soit abaissée, soit comblée ». Eh bien, le chapitre commence par ce verbe hébreu que vous ne pouvez pas reconnaître, parce que dans la traduction, ça n'apparaît pas, où on dit « Consolez, consolez mon peuple, dites-lui que sa faute est pardonnée, que Dieu ne tient plus compte de rien, mais qu'il t'a reçu et qu'il t'accueille à bras ouverts. » Eh bien, ce consoler, nahamu, nahamu, ami, consolez, consolez mon peuple, c'est ce verbe naham qui est traduit par métanoïté, c'est-à-dire la conversion. Et du coup, je suis en train de me poser une vraie question. C'est est-ce que tout ce que je vous ai dit, et que je crois à peu près vrai, hein, sinon je ne l'aurais quand même pas redit, mais est-ce que c'est vraiment le fond de l'histoire? Est-ce que toute cette histoire un peu moralisante de dire « Reconnaissez votre faute, acceptez le pardon, rendez droit à vos sentiers, repentez-vous, convertissez-vous », est-ce que c'est le sens de l'histoire pour se préparer à la bonne nouvelle de l'Évangile? Et est-ce que la bonne nouvelle, ce ne serait pas plutôt « Consolez-vous, consolez-vous, consolez-vous », c'est-à-dire non pas faites un tour de force sur vous-même, mais acceptez d'être consolé, consolez mon peuple. Parce que justement, le pardon, c'est ça qui peut nous permettre d'accueillir l'Évangile. Bien sûr, il faut se savoir pécheur et imparfait, mais ça, je crois qu'on le sait tous, dans le fond. Mais ce qui est vrai, c'est que, bon, oui, le péché, nos erreurs peuvent être des obstacles par rapport à Dieu, mais le plus grave des obstacles par rapport entre nous et l'autre et entre nous et Dieu, c'est le sentiment de culpabilité. C'est ça qui rend les gens méchants, c'est ça qui rend égoïste, c'est ça qui rend jugeur, c'est ça qui rend imperméable à tout. Parce que quand on se sent coupable, on en a assez de se faire sans arrêt condamner, culpabiliser, alors on se protège avec des murailles, je dirais, d'orgueil, d'indifférence. Et de tout ce qui nous coupe des autres. Et par conséquent, c'est très important, je crois, d'arriver à briser justement cette espèce de culpabilité qui nous tue et qui nous mine. Et c'est là où peut-être, finalement, le pardon est plus important encore que le reste. Le pardon est de dire, écoutez, soyez consolés, ne restez pas dans la tristesse, mais sentez-vous pardonnés, parce que sentez-vous libérés, purifiés, lavés, aimés, et comme ça vous pourrez avancer proprement, je dirais, justement sur un chemin qui soit un chemin de vie et de joie. Et nous avons besoin de cela, je crois, que la bonne nouvelle retire les fardeaux qui nous pèsent, puisse nous rendre disponibles, ouverts à Dieu et ouverts aux autres. Et c'est ça, je crois, la chose essentielle. Maintenant, reconnaître sa faute, c'est peut-être pas une mauvaise chose, c'est de savoir quand même, objectivement, de quoi on est coupable, mais finalement, j'y crois de moins en moins. Autrement dit, quand on plonge un vêtement dans de l'eau pour le laver, on ne garde pas en permanence l'eau sale. Autrefois, c'est ce que me faisait ma mère quand je rentrais d'un camp scout, mettait les habits dans la machine à laver, dit « Regarde comme c'est sale l'eau qui sort !» Je dis « Mais oui, mais l'eau sale, on ne va pas le mettre dans des flacons pour regarder tous les jours combien l'eau était sale de nos vêtements sales. On n'en finit plus sinon. » Et donc quand vous êtes lavé, l'eau sale, vous la jetez. Et vous restez propre. Voilà. Et donc, effectivement, convertissez-vous, c'est-à-dire consolez-vous. Non pas faites l'effort de changer, d'être différent, consolez-vous. Parce qu'on est en face d'une bonne nouvelle de quelqu'un qui nous aime. Et on nous dit tout ça, tous ces obstacles, ces culpabilités, ces péchés, tous ces problèmes, vous prenez tout ça, vous le jetez dans l'eau et vous le ressortez propre. C'est-à-dire vous en débarrasser. C'est le grand lavage de la libération. Et c'est ça, ce plongeon de Jean-Baptiste qui nous permet ensuite de recevoir le baptême de l'Esprit, c'est-à-dire d'être plongé dans quelque chose qui nous donne la vie, l'Esprit qui va nous redynamiser, nous remettre en marche, nous remettre en route vers les autres. C'est ça qui pourra avancer. Et donc Jean a un rôle fondamental et finalement c'est cette démarche, je dirais, de conversion, de repentance, mais peut-être plus encore de consolation, de changement d'état d'esprit, qui nous permet d'avoir un état d'esprit positif, ouvert, heureux, libre et reconnaissant. Et si on arrive à travailler cet état d'esprit pour nous ouvrir à Dieu et aux autres, alors nous pourrons aller quelque part qui soit lumineux et plein de vie. Mais en même temps, Jean-Baptiste nous mène à la porte de l'Évangile. Donc oui, repentez-vous, soyez consolés, pardonnez, ça c'est bien, c'est un point de départ. Et ensuite, vous pourrez passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire aller vers l'Évangile et vers ce Christ qui ensuite vous dira tout ce que vous pouvez faire de cette vie neuve qu'il vous a offerte. Et ça, c'est l'Évangile qui nous met en chemin, qui nous met en route, mais... Si Jean-Baptiste est important, ce n'est pas simplement pour les 4 semaines qui précèdent Noël, et c'est en ce sens que je n'aime pas les temps liturgiques, c'est pour tout le temps. Et donc, je dirais, on devrait, effectivement, comme on le fait tous les dimanches, avant la lecture de la Bible, nous rappeler que nous sommes pécheurs et pardonnés, et nous devons sans arrêt nous rappeler que nous sommes devant un Dieu devant qui nous savons que nous sommes pécheurs, mais qui ne nous laisse pas dans cet état, et qui nous laisse... consolé, pardonné, libre et joyeux pour le servir. Amen.